Débat du jour.
Anne Souhaitemont. Il est dans une forme de supercherie et d'illusion médiatique. Monsieur Macron, c'est le fauné du pouvoir socialiste de Monsieur Hollande. Et je crois que le brouillard va très vite se disperser.
Monsieur Emmanuel Macron, j'ai beaucoup de sympathie à titre personnel, il m'a succédé à Bercy. Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'il était. Pour moi, il est un peu Monsieur X. Est-il de droite? Est-il de gauche? Que veut-il? Il fait des compliments à Valéry Giscard d'Estaing, parfois à Philippe de Villiers, parfois il va dans la Nièvre pour saluer François Mitterrand. Bref, j'ai besoin de comprendre, mais nous avons encore le temps.
Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la gauche, vous l'avez peut-être reconnu juste avant lui, c'était Éric Ciotti, soutien de François Fillon, tous deux tirant à boulet rouge, comme on dit, sur Emmanuel Macron. Et pour cause, en quelques mois, l'ancien ministre de l'économie s'est fait une place dans la course à la présidentielle, une place telle que selon les sondages, que personne ne croit évidemment, mais que tout le monde scrute à la loupe, il pourrait, dans certaines circonstances, se qualifier pour le second tour et peut-être même l'emporter en mai prochain, un scénario auquel ne peut prétendre aujourd'hui aucun autre candidat dit de gauche. Les meetings d'Emmanuel Macron font le plein quand Manuel Valls peine à réunir quelques centaines de personnes. De quoi susciter l'espoir d'un certain nombre d'électeurs qui se désespéraient jusque-là d'un inéluctable second tour Fillon-Le Pen. De quoi susciter aussi l'intérêt des élus qui annoncent un à un leur ralliement. On parle même de poids lourds de la gauche qui pourraient, qui seraient sur le point de basculer. Ce serait le cas de Ségolène Royal ou encore de Jean-Marc Ayrault. Attention, toutefois, il y a aussi les détracteurs d'Emmanuel Macron. Eux parlent d'un candidat des médias, d'un candidat sans programme, d'un candidat de droite. Alors Macron, bulle médiatique ou vrai phénomène politique, c'est notre thème du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Marisa Chiari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice socialiste, soutien d'Emmanuel Macron, déléguée nationale d'En Marche. En gros, vous êtes l'une de ses porte-paroles. À vos côtés, Daniel Leca, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole nationale de l'UDI, conseiller régional et élue dans l'Oise. Enfin, Pauline Thévenot est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, reporter au service politique du journal Le Parisien. Vous suivez Emmanuel Macron depuis le tout début de sa carrière en solo. Depuis le 6 avril, quand il a lancé son mouvement politique, ni de droite ni de gauche, avait-il expliqué, En Marche, c'était à Amiens. Alors, Marisa Chiari, je voudrais d'abord évidemment vous donner la parole. Comment est-ce que vous lisez ce qui se passe, que j'ai décrit dans l'introduction? Est-ce qu'on est sur un phénomène Macron, un tournant de la campagne? Comment ça se passe selon vous?
Alors, le terme phénomène, je ne l'aime pas beaucoup. Je pense que Emmanuel Macron, c'est un positionnement, c'est une vision et c'est une méthode pour réunir les Français progressistes de tous bords avec comme objectif de gagner la présidentielle.
Mais alors, on nous dit beaucoup en ce moment, enfin c'est ce qu'on lit dans la presse, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les meetings, il y a ces ralliements qui arrivent. Vous avez l'impression qu'il y a quand même une dynamique Macron en ce moment?
Ah oui, il y a réellement une dynamique Macron. Vous savez, le président Obama, dans son dernier discours, a dit la chose suivante, une chose très simple. Il a dit « le changement peut intervenir quand des gens ordinaires s'engagent ». Eh bien, c'est ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas vraiment de grandes têtes d'affiche autour de lui, mais il y a des gens simples, ordinaires, qui reviennent à la politique ou qui s'intéressent tout d'un coup à la vie de la cité grâce à Emmanuel Macron. Et donc, on ne peut que s'en féliciter.
Alors, Pauline Thiévenot, vous écriviez hier, j'ai pris un extrait de votre article, ses détracteurs lui prédisaient la durée de vie d'un météore, mais la candidature d'Emmanuel Macron prend corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il se passe effectivement quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines autour d'Emmanuel Macron?
Alors, si on regarde les faits, ce qui se passe sur le terrain, on constate quoi? Que le grand meeting de la Porte de Versailles, qui avait rassemblé début décembre quelques 10 000 personnes, n'était pas qu'un coup. Depuis qu'il est revenu de vacances, après les fêtes, Emmanuel Macron, il continue à faire le plein. On l'a vu à Nevers, à Clermont-Ferrand, à Lille avant-hier, 4 000 personnes.
Lille, en plus, c'est évidemment symbolique, puisque c'est le fief
bastion,
de Martine Aubry,
voilà,
qui est pas franchement Martine l'une des Aubry. Premières fans d'Emmanuel Macron.
Voilà, qui avait dit, on s'en souvient, Macron ras-le-bol. Donc voilà, dans sa ville, il réussit à rassembler 4 000 personnes. À Quimper, encore hier soir, 2000 personnes. Apparemment, alors moi j'y étais pas, mais de ce que certains de nos confrères ont rapporté, des gens sont restés dehors. Donc voilà, à minima, il y a une attraction et il suscite la curiosité. Reste à savoir qui vient dans ces meetings? Est-ce que c'est un électorat?
Alors, on va y venir, effectivement. Est-ce que les gens viennent par curiosité? Est-ce qu'ils viennent déjà par adhésion? Comment est-ce qu'ils sortent des meetings? C'est évidemment des questions que j'ai envie de vous poser. Daniel Lecas, je voulais vous demander à vous votre regard. Alors, évidemment, vous n'êtes pas macroniste, hein, comme on dit. Vous êtes ici pour représenter l'UDI qui soutient officiellement François Fillon, même s'il y a quand même un certain nombre d'élus qui sont passés du côté d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous reprenez les mots de ceux qui critiquent le phénomène Macron, qui disent que c'est le candidat des sondages, le candidat des médias?
À l'UDI, on essaie généralement d'être un peu plus équilibré et on essaie d'éviter d'être dans la critique systématique. Il y a une réalité, il y a une curiosité autour d'Emmanuel Macron. Là-dessus, personne ne peut dire le contraire. Cette curiosité, je pense que le terme phénomène est intéressant, révèle quelque chose. Elle révèle quelque chose de l'attente des Français qui, effectivement, en ont sans doute un peu assez du cumul des mandats, de la reproduction des mêmes têtes, qui ont envie, sans doute, d'idées neuves et de méthodes neuves. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron répond à ça? Pour ma part, je ne le crois pas, naturellement, vous vous en
pas
doutez.
Encore.
Je pense qu'il n'est
ni... de vous convaincre, j'ai l'impression.
Il n'est ni dans aujourd'hui la proposition, effectivement. Il est dans un positionnement qui est intéressant, qui peut plaire à certains centristes, c'est vrai. Mais c'est un positionnement qu'on a toujours connu. En quoi est-ce moderne que de s'opposer à son camp pour émerger? C'est une position qu'avaient adoptée à l'époque des personnalités très fortes qui ont réussi à exister sur un positionnement putatif, mais qui en réalité à un moment donné disparaissent ou en tout cas s'effondrent parce qu'on tombe dans le concret. Et quand il faut rentrer dans le concret, eh bien il faut une cohérence idéologique. Et l'entourage dit beaucoup de cette cohérence idéologique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est principalement rejoint par des personnalités de gauche. Vous parliez de Ségolène Royal. On parle demain éventuellement...
C'est quand même intéressant, parce que là, vous nous dites qu'en fait, c'est un vrai candidat de gauche, ce qui est une critique selon vous. Et à gauche, on dit c'est un vrai candidat de droite.
Ça veut dire qu'il n'est le candidat d'aucun des deux camps. Pas de problème. À condition que maintenant il devienne le candidat des Français. Je ne crois pas qu'il soit en capacité de le faire parce que nous avons en France une attention toute particulière sur les projets, sur les programmes, sur les idées. Et on ne peut pas se limiter à un positionnement purement moderniste, car en plus, au fond, c'est une illusion parce qu'il n'a rien de moderne. Sa capacité à émerger sur un simple positionnement d'opposition au président Hollande
n'est pas
une modernité.
On va vous le dire.
Quand on regarde dans le détail, il rejette les partis politiques. Mais que fait-il avec En Marche? Il crée un parti politique avec tous les inconvénients du parti politique, sans les avantages. C'est-à-dire que ça n'a ni cohérence idéologique et c'est concentré entre les mains de quelques-uns. Et il le dit lui-même pour désigner ses candidats législatifs, c'est lui qui va tout concentrer. Est-ce au fond ce que l'on souhaite d'un parti politique moderne ou en tout cas d'un mouvement puisqu'on joue sur la
Alors, Barry Zakhiari, une réponse sans doute. Est-ce qu'Emmanuel Macron se contente d'une position moderniste, comme dit Daniel Lecas?
Alors, vous avez raison quand vous dites que ce positionnement a été vu dans le passé. Sauf que c'était le passé. Et qu'aujourd'hui, c'est différent. C'était peut-être trop tôt à l'époque pour M. Bayrou. Aujourd'hui, visiblement, il y a une attente qu'on se situe en dehors des clivages parce qu'on en a assez de tous ces redoublants qui nous ont amenés à l'échec. Donc la nouveauté, ça plaît. Emmanuel Macron, ce n'est pas seulement un positionnement, c'est une vision et c'est une démarche. Et c'est aussi des propositions qu'on ne veut pas forcément voir.
Alors, lesquelles? Parce que c'est vrai que...
Emmanuel Macron, l'intérêt, c'est qu'il conjugue liberté d'un côté et solidarité pour tous de l'autre. Par exemple, sur le travail, il a fait des propositions. Sur un programme universel de chômage pour tous, il a fait des propositions. Sur l'école, il a fait des propositions. Sur un tas de sujets, il a fait des propositions. Mais seulement, on ne regarde pas encore ces propositions. Alors, on regarde le phénomène.
On regarde le phénomène, mais juste sur les propositions, c'est vrai que parfois on peut... Alors peut-être que vous avez une réponse, Pauline Thiévenot. Est-ce que sur la lisibilité du programme, les électeurs ont une vision claire? Parce que par exemple, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut une durée légale du travail moindre après 50 ou 55 ans, est-ce que ça imprime? Et puis c'est 50 ou c'est 55 ans alors par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent les électeurs face aux gens, enfin les sympathisants pour l'instant?
Ceux que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai discuté, qui viennent au meeting d'Emmanuel Macron, ce qu'ils ont bien identifié, c'est qu'il veut transcender le clivage gauche-droite. Ils ont bien identifié l'idée qu'il prône le renouvellement en politique, qu'il casse les codes. Ça, c'est très net dans leur esprit et c'est d'ailleurs ce qui leur plaît. Ils le créditent aussi d'une certaine clarté et d'une honnêteté. Alors peut-être parce que il a pris le risque de sortir du gouvernement et de créer son mouvement.
On lui a longtemps reproché de l'avoir fait tard.
Oui, mais en tout cas, maintenant, les gens le créditent, en tout cas croisés dans ces meetings, d'une certaine clarté, d'une honnêteté. Et voilà. En revanche... Même beaucoup de ceux qui viennent dans ces meetings disent Eh bien, moi, je viens pour en savoir un petit peu plus sur ses propositions. Voilà, de ce que je ressens, ça me plaît, mais je reste un peu sur ma faim, sur le contenu, et donc je viens pour en savoir plus sur ce qui compte réellement proposer. Donc, il y a une véritable interrogation, y compris des gens qui ont plutôt un bon a priori.
Et alors, qu'est-ce qu'ils disent en sortant finalement de ces meetings d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce qu'ils ont retenu des propositions?
Alors, en sortant, souvent, ils le trouvent très bon orateur. Voilà, ils le créditent de cette capacité.
voilà, faites référence à cette image peut-être au meeting de Paris.
Voilà, de cette capacité à séduire et à d'une certaine proximité avec les gens.
En revanche, sur le programme.
Alors, il est en empathie avec les gens. Oui. Moi, je pense que la phase séduction, elle est derrière nous. Et que la phase séduction, je parle de la phase séduction propre, des gens rockstar, des choses comme ça, et que il commence à imprimer nos concitoyens, c'est-à-dire il commence à parler à leur intelligence. Ça commence à venir. C'est vrai que les meetings, c'est pas forcément les lieux les plus intéressants pour imprimer une proposition.
Pourtant, il parle longtemps dans ces meetings. Voilà. C'est ça le problème qu'on en a. Il parle une heure et demie.
Il noie
les propositions.
Mais il faut reconnaître aussi que le plan de transformation n'est pas encore bouclé. Et que
Plan de transformation, le programme, ça veut dire quoi le plan de transformation?
Le plan de transformation. Emmanuel Macron ne fera pas un programme en 1000 pages comme l'a fait un certain candidat de droite. C'est évident. Des mesures techniques, non. Il proposera 15 grandes orientations d'où découlera le reste. Et donc, pour le moment, ça n'est pas encore au point. Ça, je vous le concède volontiers. Ça sera fait.
Daniel Leca, parce que là, on a quand même quelqu'un qui nous explique, qui soutient Emmanuel Macron, qu'effectivement, le programme, c'est peut-être pas la grande priorité. Ce qui compte, c'est la méthode. Et si ça marche, est-ce que ça, c'est pas le signe que c'est une forme d'échec aussi des partis politiques qui chiffrent les programmes?
Certainement pas un échec, c'est une nécessité de répondre à une attente. Aujourd'hui, il y a une adaptation. Voilà. Il y a une réalité qui est qu'effectivement, noyer les Français sous 35-40 propositions, ça n'a pas de sens. En revanche, en politique, il y a trois choses qui me semblent importantes. Un, la méthode, vous l'avez évoqué. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la méthode d'Emmanuel Macron soit dans la co-construction, mais effectivement, on ne le voit pas. Ensuite, il y a deux éléments qui me semblent importants. Un, la hiérarchie des priorités. Quelle est la hiérarchie des priorités d'Emmanuel Macron? On ne le sait pas, puisqu'en réalité, il a une série de propositions qu'il met sur le même plan, qui sont aujourd'hui difficilement conciliables avec des plans de financement qui ne sont pas du tout établis. Alors, je veux bien qu'on dise que ce sont des grandes orientations, mais enfin, quand même, quand on dit, par exemple, qu'il faut mettre en place une indemnisation chômage, y compris lorsqu'il y a une démission, très franchement, quand on voit l'état de nos comptes publics et notamment de notre système social, est-ce qu'on est en capacité de le faire aujourd'hui? Clairement, non. Et donc, il faut être cohérent aussi dans ces propositions.
Alors, Marisa Carré, sur la hiérarchie des...
Il n'y a pas de hiérarchie des priorités. Alors, puis, juste dernière chose, les mots qu'on emploie en politique sont importants. Et parfois, disons-le, Emmanuel Macron a un regard de classe. Je le dis parce que j'ai lu son livre et il présente son parcours comme étant celui d'un enfant qui a réussi un peu par lui-même. Enfin, il est issu d'une famille qui est plutôt une famille aisée. Il n'y a pas de honte à ça, c'est très bien.
Mais là, vous critiquez le manque de fonds et en même temps, vous attaquez un petit peu à la forme.
Il fait les deux. Mais non, parce que il fonde sa méthode, vous le disiez, sur ça, sur une construction personnelle. Demain, on pourra tacler le projet sur le fond, mais aujourd'hui, il n'y en a pas.
Il y a des propositions
qui ne sont pas quantifiées.
Il a des
mais
propositions.
Mais alors, quelles sont les priorités, justement? Si on devait donner 4-5 priorités, comment vous les...
Alors, moi, je dirais liberté et solidarité. En même temps, on tient le côté d'ouverture, de liberté dans un monde moderne. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, s'inscrit dans une histoire. Dans une histoire française, et qu'en même temps est capable de nous projeter dans l'avenir. C'est vraiment quelqu'un qui a compris le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui est en capacité de nous projeter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de jeunes. Il est compris par les jeunes.
Alors justement, peut-être sur qui sont ceux qui vont aujourd'hui dans les meetings. Pauline Thiévenot, on avait dit au début beaucoup de jeunes. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ce sont des politisés, des gens qui ne votaient plus? Qui sont ceux qui viennent dans les meetings?
Alors il y a quelque chose de très très intéressant qu'a mis en place En Marche depuis le meeting de la Porte de Versailles. C'est désormais En Marche envoie des questionnaires de satisfaction ceux qui ont participé au meeting au lendemain des meetings. Et donc, ça permet non seulement de savoir ce qu'ils ont pensé du meeting, mais d'en savoir un peu plus sur qui ils sont. Et j'ai pu consulter ces questionnaires. Et ce qui était très intéressant, c'est que sur le profil des participants, qu'est-ce qu'il en ressortait ? Que la majorité de ceux qui viennent au meeting d'Emmanuel Macron n'ont jamais participé à un meeting avant. C'est leur premier meeting. Et on peut faire le parallèle parce que les reportages que j'ai faits auprès des adhérents d'En Marche, auprès des militants, la plupart d'entre eux aussi n'avaient jamais adhéré à un parti politique. Donc,
Il amène.
Ce sont un peu ce qu'on, chez En Marche, on dit les primo accédant à la politique. Alors ça, c'est très intéressant. Et ce qu'on constate aussi, c'est...
Surtout quand on sait qu'à peu près la moitié du corps électoral aujourd'hui ne va pas voter.
Tout à fait. Ça laisse une marge de progression. Si on arrive à convaincre ces gens qui ne sont jamais venus à un meeting ou qui n'ont jamais adhéré à un parti politique, ça fait quand même une marge de progression.
Alors ça, Daniel Lecaille, j'imagine quand même que...
Autre enseignement, c'est que effectivement, ces questionnaires de retour sur les meetings montrent qu'effectivement, les moins de 35 ans sont surreprésentés par rapport à d'autres meetings. Et c'était très rigolo. À Lille, samedi, il y avait un monsieur de 73 ans, retraité, qui s'est toujours intéressé à la politique, qui a toujours participé à beaucoup de meetings, et qui me disait, en arrivant là au Zénith de Lille, c'est la première fois que je vois autant de jeunes dans un meeting. Et ça, c'est vrai.
Alors ça, j'imagine, Daniel Lecaille, que ça doit quand même vous pincer un peu le cœur, quand même, de voir quelqu'un qui...
Moi qui n'ai que 30 ans, ça m'interpelle sur la capacité qu'ont les partis politiques dits classiques à attirer. Moi, je vous parliez tout à l'heure d'équilibre entre solidarité et liberté. C'est ce qui m'a attiré au Parti radical, dans le Parti radical valoisien, intégré à l'UDI. Mais je crois fondamentalement qu'on doit s'appuyer sur une idéologie. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont du mal à se reconnaître dans les partis politiques parce que les façades ne sont pas si belles, faut le dire.
Elles sont fissurées, les façades.
Maintenant, je crois quand même qu'on est dans un pays qui attache beaucoup d'importance au fond, qui attache beaucoup d'importance aussi à la présidentiabilité du candidat. Je pense que qu'aujourd'hui, François Fillon a cette antériorité, cette compétence, et qu'au fond, c'est ce qui va peser, et c'est ce que va révéler en réalité la suite de la campagne, et notamment les débats. Les débats sont un puissant révélateur de des équilibres et de la capacité à projeter le pays, justement.
Alors, Barry Zakhiari, juste un mot. Tout à l'heure, Pauline Thévenoud nous disait, et c'est ce qui ressort de notre conversation, que finalement, ce qui séduit chez Emmanuel Macron, c'est le côté aussi pas de réel parti, en tout cas pas de vieux parti à la vieille histoire. Il y a des ralliements, j'en parlais, qui se préparent. Alors, on a parlé de Ségolène Royal, on parle aussi de Jean-Marc Ayrault, on parle, ça a été démenti depuis par l'Élysée, d'éventuellement François Hollande. Est-ce que ça, en fait, c'est pas un peu à double tranchant éventuellement pour Emmanuel Macron que de voir des poids lourds de gros partis arriver?
Vous avez raison de poser la question. C'est une start-up. En Marche, c'est une start-up qui croît. C'est une période de croissance. Pour rester attractive, enfin, pour que le mouvement reste attractif, il ne faut pas qu'il perde sa singularité et de sa cohérence. Donc, on va passer là un cap qui va peut-être être pas simple, de gestion de la croissance.
C'est paradoxal, hein, parce qu'on parle d'énormes soutiens.
Vous avez les problèmes d'un parti politique. Vous qui ne voulez pas en devenir un, vous en êtes pleinement un. Pourquoi ?
Non, mais attendez,
parce que un parti politique,
on a des problèmes de riches.
Les partis politiques, à un moment donné, sont confrontés à l'arrivée, quand il y a une dynamique, nous l'avons connu avec Jean-Louis Borloo, par le passé, François Bayrou avait connu la même chose, l'arrivée massive de nouvelles personnalités qui sont très volontaires, mais qui en réalité sont très volatiles. Et c'est malheureusement pour Emmanuel Macron, par ailleurs, pour terminer, je vous laisserai évidemment parler, je suis désolé d'avoir vous avoir coupé, mais ce sont principalement des personnalités politiques de gauche, ancrées à gauche, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est surtout, vous dites ni de gauche ni de droite, et surtout ni de droite, non. Et c'est objectivement un vrai problème si vous voulez incarner...
Jean Arthuis n'est pas de gauche, Madame Goulard n'est pas de gauche, Renaud Dutreil n'est pas de gauche...
Merci beaucoup, c'est déjà terminé. Barry Zakhiari, Daniel Leca, Pauline Thévenoud. Merci également à Valentin Vanner et à Florence Pons. On se retrouve demain pour un nouveau débat. Merci beaucoup.
Appelez-nous, exprimez-vous.